Bonjour à tous et bienvenue dans Freaks et Merveilles, un podcast sur le drag bruxellois. Merci à vous pour le bel accueil que vous réservez à cette émission. Je vous propose de continuer sans plus attendre en poussant la porte vers notre invité du jour pour ce troisième épisode.
Que le cabaret au final a ce côté un peu... On ne veut pas rentrer dans les cases. Enfin, le cabaret est né il y a plus d'un siècle dans les années 20, années 30, justement avec ce côté un petit peu... révolutionnaire et marginal. Dans un sens, on a envie de rentrer dans le système pour faire bouger les choses, et de plus en plus, la culture traditionnelle, on va dire, s'intéresse de plus en plus aussi à ce que nous, on peut proposer. Donc ça, c'est cool, mais dans un sens, je veux aussi pouvoir garder ce côté indépendant et ce côté très punk au final.
Aujourd'hui, c'est la tenancière d'une véritable institution que je reçois en mon humble demeure. Elle a commencé en punkette défiant les codes de chez maman et ne s'est plus arrêtée depuis. MC au cœur d'or, lip-synqueuse de feu, animatrice de podcast, grenouille chanteuse, star de la télé, rien ne lui résiste. Il y a 6 ans de cela, elle décidait d'ouvrir un bar entre copines, qui est devenu l'épicentre du drag bruxellois et s'est ancré comme un trait d'union vital entre les communautés LGBTQIA+, et les autres, la société cis-hétéronormée. Suivra The Agenda, un bar queer qui ne désemplit pas depuis son ouverture, pourtant en plein Covid. Vous aurez sans doute reconnu la seule et unique autoproclamée impératrice de Belgique, Mademoiselle Boop. Avec elle, on a parlé de ce dont on hérite et de ce qu'on crée, d'aller vers les autres sans se perdre, d'apprendre à dire stop et à garder la flamme. Belle écoute et à bientôt. Eh bien, bonjour Mademoiselle Boop.
Bonjour.
Comment allez-vous aujourd'hui?
Ça va.
Alors Mademoiselle Boop, on ne vous présente plus évidemment, vous êtes la référence du drag et du cabaret queer pour une bonne partie des communautés LGBT+, et des autres. Vous êtes un petit peu partout, ça fait quoi d'être l'impératrice d'un tel empire?
C'est beaucoup de boulot. c'est un poids sur les épaules. Mais globalement, ça va, je le vis bien.
Et est-ce que tu pensais en arriver là? Est-ce que, par exemple, on aura l'occasion d'en reparler plus tard, mais le fait d'ouvrir un cabaret comme le cabaret Mademoiselle, c'était quelque chose qui t'animait déjà tout baby drag ou bien...
Pas du tout. Globalement, si, mais non. Je vais expliquer. J'ai toujours été attiré par avoir mon propre endroit ou en tout cas développer ma propre activité. Mais de base, je ne pensais pas du tout me lancer dans le cabaret et surtout pas avec une telle ampleur, avec autant de responsabilités, on va dire. Et l'aventure Cabaret Mademoiselle, quand elle l'a démarré, de base, j'ouvrais juste un petit bar avec 5 copains et copines. Je n'avais pas du tout planifié de devenir impératrice de Bruxelles et d'avoir plusieurs établissements et d'avoir un tel empire. Mais en tout cas, effectivement, depuis, on va dire, mes 20-22 ans, j'avais très envie, en tout cas, de lancer ma propre affaire et de pouvoir avoir mon propre établissement. Ça a toujours été un petit peu dans mes plans et ça a mis une quinzaine d'années avant de se concrétiser.
Mmh. Et pourquoi est-ce qu'il y avait cette envie? C'était l'envie de pouvoir amener ta patte ou de pouvoir être ton propre patron?
Je pense que je ne conscientisais pas du tout ce pourquoi. J'ai toujours eu un attrait pour... le monde de la nuit, la fête, le spectacle, etc. Et effectivement, le fait de pouvoir être son propre patron ou en tout cas de développer soi-même ses propres activités et être maître de ce qu'on veut proposer à quelque chose qui m'attirait.
Oui, voilà. Ça, on aura l'occasion d'en parler en deuxième partie d'émission.
Ouh, teasing.
Oui. Ce qui me frappe avec le cabaret Mademoiselle, en tout cas depuis que je vous suis, c'est que vous évoluez beaucoup. Ben, en plus, la scène drag bruxelloise évolue beaucoup. Il y a des collectifs et des collectifs qui pop de partout. Récemment, la Baraka King, les Peaux de Minuit, mais aussi des shows comme Playback, Crash Test Your Show, etc. etc. Comment est-ce qu'on fait pour évoluer sans se perdre?
Est-ce que c'était du registre de l'évidence, en fait, de suivre cette vague du moment ?
Je pense que c'est important, en tout cas, moi, de mon côté, je me remets en question très régulièrement, ou en tout cas, je m'intéresse beaucoup à ce qui se passe autour, et j'essaye de faire en sorte d'évoluer aussi. Je trouve que c'est la pire des choses, c'est de ne jamais se remettre en question, de jamais pouvoir évoluer avec surtout le public, la demande du public. C'est important d'être à l'écoute de ce que le public veut voir sur scène. Sinon, au final, on propose quelque chose qui n'intéresse plus au bout d'un moment et donc on vit de son établissement malgré soi. Et aussi, par rapport à toute la nouvelle proposition artistique aussi, c'est important de pouvoir, pouvoir analyser tout ça. Donc, ce n'est pas une volonté en soi de se mettre autour de la table tous les 6 mois et de se dire, bon, bah, maintenant, qu'est-ce qu'il faut amener, qu'est-ce qu'il faut faire pour être toujours dans le vent, mais ça fait partie de la dynamique du cabaret Mademoiselle depuis le début, de pouvoir avancer et s'adapter en fonction de plein de paramètres, en fait, de bouger tous les curseurs et de pouvoir accueillir des nouveaux artistes, de pouvoir proposer des nouveaux shows, pouvoir accueillir aussi de nouveaux collectifs, etc. Donc c'est important de se remettre en question ou en tout cas d'évoluer. Et puis en plus, on a été un petit peu confronté à une remise en question totale du modèle économique, de la proposition, de tout ça en 2020, pour ne plus revenir sur le sujet. Ça a quand même un petit peu forcé à se réinventer, comme on disait. Mais globalement, ça fait partie de l'ADN aussi du cabaret Mademoiselle, d'être dans cette constante adaptation ou réinvention, ou je ne sais pas comment il faut l'appeler, mais voilà.
Et comment est-ce que tu fais pour rester en contact avec les communautés, pour te tenir au courant, etc. Parce que j'imagine que tenir un cabaret, en plus dit agenda depuis un moment maintenant, en plus performer sur scène, en plus tous les autres projets sur le côté All That Drag, etc. Comment est-ce que tu fais pour te tenir au courant de ce qui se fait ?
Alors, depuis quelques années, il y a un outil absolument incroyable qui s'appelle les réseaux sociaux, qui permet d'être un peu partout sans bouger de chez soi. Parce qu'effectivement, c'est compliqué de pouvoir être dans tous les événements ou en tout cas tout ce qui pop à gauche et à droite et qui peut proposer des scènes et de la visibilité pour les artistes et pour aller voir ce qui se fait ailleurs. Mais du coup, les réseaux sociaux sont très, très, très utiles pour espionner, ou en tout cas avoir une vue sur ce qui se passe à gauche et à droite. Puis après, je fais aussi confiance aux gens qui m'entourent. Par exemple, la veuve avec son projet Curiosity, qui accueille énormément de nouveaux artistes aussi, qui va pouvoir me faire des feedbacks aussi sur ce qui se passe et me raconter un petit peu ce qui se passe quand je n'ai pas l'occasion d'aller voir moi-même directement. Et donc ça évolue comme ça, aussi bien avec la veuve qu'avec d'autres artistes du cabaret où je peux avoir des retours.
D'accord. Et mais donc justement, 5 ans d'existence, dont 2 ans en étant déclaré comme non essentiel.
Là là là.
Et peut-être même encore moins que les autres, parce que les théâtres qui étaient déjà subventionnés, pour la plupart, ont reçu des aides complémentaires, des aides d'urgence, etc. Mm-hmm. Vous qui, si je ne me trompe pas, n'étiez pas soutenu structurellement par la Fédération Wallonie-Bruxelles, vous êtes passé encore plus au deuxième rang. Comment on tient ça ? Comment on se relève ?
Alors, on n'est pas encore totalement debout. On est plutôt encore en train de ramper, ça c'est sûr. Donc oui, effectivement, le Covid, ça a été assez, assez violent. Mais je pense que comme on n'a justement pas eu de soutien de base, on n'était pas dans le circuit subsidié, subventionné par la Fédération Wallonie-Bruxelles. On dépendait uniquement du secteur de l'horeca pour le fonctionnement du bar. Parce que comme je l'ai dit au tout début, je voulais juste ouvrir un petit bar avec 5 copains et copines à la base. Donc les questions ne se posaient pas du tout, mais ça a été très intéressant en tout cas de remettre en question aussi toute la partie un peu plus structurelle du cabaret Mademoiselle grâce ou à cause du Covid et se poser les bonnes questions justement sur comment est-ce qu'on veut réellement fonctionner, qu'est-ce que ça implique d'être subsidié, etc., etc. Ce qui fait qu'on se pose toujours les questions à l'heure actuelle, même si... On aimerait bien avoir un peu plus d'argent du secteur culturel. Ça implique aussi de devoir rendre des comptes. Et la question se pose souvent justement sur le côté un peu indépendant et un peu, marginal de la pratique du cabaret, de est-ce qu'en fait on a envie d'être subsidié ? Est-ce qu'on a envie de rendre des comptes ? Est-ce qu'on a envie de rentrer dans ces cases-là alors que justement on essaye de casser les cases et de casser les codes avec la pratique du cabaret ? Mais on ne va peut-être pas rentrer dans ce long débat philosophique ici.
Ah oui, c'est débat, est-ce qu'il vaut mieux rentrer dedans pour le changer de l'intérieur ou rester à l'extérieur et...
Exactement, mais ce qui fait qu'à l'heure actuelle, effectivement, bah, on est encore en train de payer les pots cassés par rapport à la longue période d'inactivité où on a dû, bah, pour survivre, faire des emprunts, des prêts de trésorerie et aller chercher à gauche et à droite des solutions. On a eu des... près d'un an de loyer impayé qu'on rattrape encore à l'heure actuelle. Heureusement, sur le moment, le proprio a été clément et n'a pas exigé. Sinon, là, on mettait la clé sous la porte directement si on avait dû continuer à payer les loyers. Mais par contre, le proprio veut récupérer quand même ses loyers impayés pendant un an. Donc, il y a un échelonnement des loyers, etc., qu'on est encore en train de payer. Donc oui, c'est assez compliqué, comme je disais, on n'est pas encore debout. On a dû repenser tout le système, tout le modèle économique aussi, parce qu'avant, comme je disais, c'était un petit bar, on rentrait, on sortait, c'était entrée libre, on passait un chapeau et on ne se posait pas trop de questions sur l'avenir, aussi bien du côté de l'organisation du cabaret que sur le statut des artistes de cabaret, etc. Et depuis le Covid, effectivement, on a la volonté maintenant de valoriser réellement le travail des artistes et notre travail. On a mis en place des entrées payantes pour assurer le salaire des artistes, des techniciens, des techniciennes, etc. Et en tout cas, pour le moment, ça nous permet de survivre. Mmh. Je ne partirai pas aux Bahamas la semaine prochaine avec tout l'argent qui rentre, mais, mais on survit et on récupère un petit peu les pots cassés, comme je disais.
Mon impression, c'est que le cabaret Mademoiselle fait un peu le trait d'union entre les communautés queer et des communautés justement qui ne sont pas concernées. Et d'ailleurs, quand je vais voir un show là-bas, souvent, c'est assez mélangé. Ça, à ton avis, c'est quelque chose que toi, tu as voulu mettre en place ou c'est quelque chose qui s'est fait comme ça et avec lequel, du coup, vous roulez ?
En tout cas, dès le début, j'ai voulu que ça soit... à la fois sur scène pluridisciplinaire et pluriprofil, je sais pas comment on peut dire, mais en tout cas avoir tout type d'artistes, aussi bien en termes de discipline qu'en termes d'identité. Mmh. Et c'était pareil pour le public. Je voulais mélanger les communautés. Je voulais justement que ce mélange d'artistes fasse en sorte que le public soit très très multiple. Et c'est d'ailleurs une des premières portes que je me suis mangé avant d'ouvrir le cabaret, quand j'allais présenter mon projet à gauche, à droite, à des institutions, à des banques, etc., pour lever un peu des fonds. C'est que justement, d'après eux, mon profil était trop large, enfin mon public était trop large, je devais définir beaucoup plus le profil type du public, etc., etc.
Donc le public lui-même devait rentrer dans une case, quoi.
Exactement.
Jusque-là.
Oui, c'est ça. Dès que tu dois remplir des formulaires et demander de l'argent, il faut tout faire rentrer dans des petites cases et je déteste ça. Et effectivement, du coup, à chaque fois, je répétais, mais non, en fait, je veux vraiment mélanger les genres, mélanger les identités, mélanger les milieux sociaux. Et tout le monde me disait, mais tu vas te planter la gueule, ça ne va jamais marcher, il faut quelque chose de beaucoup plus défini. Mais au final, j'ai réussi malgré tout à ouvrir et à trouver des petits sous pour démarrer l'activité. Et comme tu le dis, ça a fonctionné. Les publics se mélangent. Et j'ai effectivement l'impression par moment qu'on fait un peu le lien entre la communauté queer et les petits collectifs et ce qui peut se passer dans un peu en subculture et justement tout ce qui peut se passer dans le côté un peu mainstream. On est un peu à la croisée des deux mondes et c'est ça qui est chouette. J'aime bien cette position qui reste à nouveau un peu bâtarde, mais parfois on peut même nous reprocher d'un côté comme de l'autre de ne pas être assez tranché, assez engagé pour certaines personnes ou trop engagé pour d'autres. Donc, mais bon, ça, oui.
C'est... De toute façon, il s'en trouvera toujours pour critiquer ce que les autres proposent.
Mais... Exactement.
J'ai appris que toutes les performeuses qui performent au Cabaret Mademoiselle sont sous contrat.
Oui.
Ce qui... Honnêtement, je tire mon chapeau parce qu'il y a même certains théâtres subventionnés structurellement qui ne le font pas. Donc ça déjà, c'est assez formidable. Et puis, non content de vos soirées qui remportent un succès assez impressionnant, vous proposez à des collectifs justement d'occuper le Cabaret Mademoiselle. Je pense notamment à la Baraka King qui a tenu quelques soirées récemment. C'est important pour toi aussi justement, peut-être dans ce rôle de trait d'union, d'être une espèce de plateforme, en tout cas d'offrir une structure à des collectifs qui commencent et qui n'ont pas forcément cette chance.
En tout cas, ça s'est un peu imposé rapidement. Imposé, c'est un mot un peu, ce qui peut paraître péjoratif, mais pas du tout. On avait un lieu, autant le mettre à disposition aux artistes qui ont des projets, qui ont des envies, qui veulent pouvoir profiter de ce lieu. Je crois que ce qui fait la grande différence avec le Cabaret Mademoiselle, déjà, c'est une petite structure. Et justement, on a de comptes à rendre à personne par rapport à cet aspect non subsidié que j'évoquais tout à l'heure. Et je pense aussi, sans vouloir me jeter des fleurs, mais je vais m'en jeter quand même un petit peu.
Il faut parfois.
C'est que la grande différence, c'est que c'est un lieu qui est tenu par un artiste, enfin qui a été créé par un artiste pour les artistes. Et je pense que c'est déjà quand on voit la taille des loges, c'est très rare d'avoir un tel confort dans des cabarets. En tout cas, c'est ce que beaucoup d'artistes qui viennent de cabarets parisiens ou d'autres types de cabarets disent. C'est que en général, l'espace pour les artistes est vraiment réduit à presque néant et on essaye de maximiser tout l'espace pour le public, justement, pour pouvoir générer un maximum d'argent. Alors que moi, mon but principal, c'était le confort de l'artiste. Et pourquoi est-ce que je racontais tout ça et que je me
on parlait
me flattais
On parlait d'offrir une plateforme à des collectifs c'est ça, comme la Baraka King et autres.
Et donc du coup, effectivement, moi j'ai plutôt cette vision de on est entre artistes et j'ai un lieu, autant faire en sorte qu'ils puissent profiter à toutes les personnes qui veulent en profiter et donner pouvoir être un peu le tremplin ou en tout cas pouvoir accueillir et visibiliser les artistes qui voudraient justement avoir une démarche de professionnalisation, présenter leur travail dans un lieu. Bon, après, c'est pas non plus un grand théâtre avec des moyens techniques de fou, mais je pense que c'est quand même important de pouvoir travailler sur une scène, sur un plateau, avec une certaine technique et de pouvoir présenter aussi rapidement le travail qu'on propose au public, parce que c'est à que comme ça qu'on peut évoluer. Et donc voilà, effectivement, nous maintenant on a plutôt le côté grosse machine, justement un peu mainstream, qui tourne les vendredis, samedis, qui est devenu assez codifié en tout cas et qui demande un certain critère au niveau du public et en tout cas de ce que recherche le public. Mais par moments, ça me frustre d'avoir ce côté un peu machine, un peu commercial, même si j'aime pas le terme. Et donc ça m'éclate, moi, de pouvoir justement continuer à proposer des choses plus alternatives, des possibilités pour tous les collectifs qui voudraient justement profiter d'une salle à moindre coût, limite même pouvoir engranger un petit peu d'argent pour ces artistes et pour son fonctionnement. Donc venez les collectifs, frappez à notre porte, n'ayez pas peur.
Ah oui, écoute, si toutes les machines commerciales proposaient à des artistes minorisés de venir performer dans des conditions pareilles, je pense que les choses iraient beaucoup mieux. Donc, ouais. Vous en êtes une belle de machine. Et d'ailleurs, moi-même, il y a 2 ans, c'est notamment grâce au Cabaret Mademoiselle, il y a même 2 ans et demi que j'ai pu bénéficier d'une première résidence pour un projet qui a pu attirer l'attention de plus gros théâtres et qui a fait que Sans Titre ni Bite a pu se créer.
Ta-da !
Donc merci. Et en plus, c'était les premiers pas de Croc, les premiers ateliers make-up, etc. Enfin bref, nous nous perdons dans un autre sujet. Revenons à Mademoiselle Boop. Et justement...
Qui est-elle ?
Qui est-elle ? Oh. Eh bien, en tout cas, assister à un show de Mademoiselle Boop, ça pourrait ressembler à ça. It's oh so quiet. Shh, shh. It's oh so still. Shh,
Life's candy and the sun's a ball of butter. Don't bring around a cloud to rain on my parade. Life's not worth a damn till you can shout, "Hey, world!"
Quelle voix! Oh,
mais c'est tout un programme assister à du Mademoiselle Boop.
Ah, ça, c'est sûr.
On passe par de la pop, par des chanteuses à voix, des messages engagés ou des choses très légères. C'est
drôle parce que c'est vraiment une espèce de micro-rétrospective de toute ma carrière. Parce qu'il y a des numéros que je ne fais plus du tout, mais que je faisais. Enfin, justement, le Kesha TikTok, c'est mes jeunes années. Et puis, terminer sur I Am What I Am, qui est un de mes derniers grands numéros. Oui, c'est rigolo. Mm. Mais effectivement, c'est un éventail.
Mais oui. Ça t'a aidé de trouver ce que tu étais, le drag ?
À quel niveau ?
Ah. Est-ce que ça t'a aidé à te trouver, à trouver ton identité à toi, à travers ce masque-là ou pas.
C'est toujours une question compliquée. parce que j'ai l'impression que c'est un peu donnant-donnant dans le sens où, au début, c'est Renaud qui a dû nourrir mon personnage drag, forcément. Puis ensuite, le personnage drag évolue dans un univers. Entre autres, moi, ça a été l'univers, le milieu de la nuit, etc. Et ça m'a permis de me nourrir de pas mal de choses aussi, artistiquement ou même socialement, et qui, du coup, a nourri Renaud. Et puis, c'est comme ça, c'est très cyclique comme ça. Donc, oui, autant Renaud nourrit Boop que Boop nourrit Renaud. Et toujours très compliqué comme les questions d'identité, surtout quand on a ce deuxième personnage qui fait en même temps partie de nous et en même temps qui n'est pas nous. Où est vraiment la frontière, où est la limite, on n'en sait rien. En tout cas, pour ma part, je n'en sais rien, c'est très imbriqué. Je sais qu'il y a certaines personnes, c'est vraiment un personnage totalement très différent de qui ces personnes sont au quotidien, alors que moi, c'est vraiment une extension de moi-même. Ce n'est pas une construction totale, c'est une autre version de Renaud avec d'autres codes. Et voilà.
Oui. Comment ça a commencé tout ça ? C'était quoi ton premier souvenir, ton premier contact avec l'univers des transformistes du coup à l'époque ?
Ah, ça me fait paraître vieille, c'est ça. Effectivement, à l'époque, ça s'appelait encore transformiste. Alors s'il faut retracer toute l'histoire, je pense que bon, déjà mon premier rapport avec la scène, c'est quand j'ai commencé la danse classique à 3 ans. Dès 3 ans, j'ai voulu faire de la danse et un de mes premiers spectacles, j'ai été déguisé en schtroumpf. J'avais 3 ans et j'ai hurlé parce que j'étais maquillé en bleu et je ne comprenais pas pourquoi ma peau avait changé de couleur.
C'est trop chou.
Et ensuite, vers 6 ou 7 ans, pour une fête d'école, j'étais dans une école non mixte, donc uniquement des garçons, et on devait faire un spectacle où on était en jouet. Et j'avais demandé pour être une poupée Barbie. Et donc, dans mon école que de garçons, s'est retrouvé le petit Renaud sur scène, habillé en Barbie, avec une perruque blonde et une robe rose. Donc là, je remercie ma maman d'avoir
suivi
et accepté que je devienne une Barbie le temps d'un spectacle d'école. Donc là, je pense que ça a été ma première vraie expérience drag sur scène, mais sans le savoir. Et au final, j'ai réellement découvert le milieu des transformistes vers 2004-2005, quand j'étais étudiant à l'IEX en communication. Et pour un travail d'études, j'ai été amené à découvrir le cabaret chez maman et l'équipe de chez maman. Donc c'était un travail de photo et donc on a passé quelques temps en loge à faire des photos backstage, etc. Et du coup, à vraiment découvrir qui étaient les artistes derrière la pratique du transformisme, parce qu'à l'époque, j'avais pas mal d'a priori. Je venais pas du tout de ce milieu. J'étais même plutôt petit punk alternatif qui sortait dans des soirées électro, et j'avais beaucoup d'a priori sur ce qu'on appelait à l'époque le milieu gay, sur les bars gays, etc. Je ne comprenais pas trop le côté communautaire et je le fuyais un petit peu. Mais dès que j'ai découvert la pratique du transformisme et les artistes, ce qu'ils proposaient sur scène, ça a été un petit peu une espèce de révélation sur le fait que c'est vraiment une pratique artistique avant tout, que ça mêle à la fois un travail de comédien, de chorégraphe, de danseur, de styliste, de maquilleur, de coiffeur. Enfin, il y a tellement de facettes artistiques, de maîtrise, de plein de disciplines que bah oui, je suis tombé en amour, comme on dit. Et du coup, bah ouais, je suis tombé dedans et je n'en suis pas sorti facilement, voire pas du tout.
Et tu montes sur scène pendant les fameuses nuits des débutantes de chez maman.
Que beaucoup ont faites au niveau des dragues à l'heure actuelle. C'était un petit peu le passage obligé à l'époque, si on voulait en tout cas essayer d'intégrer la troupe de chez maman, c'était de faire les nuits des débutantes. Et donc en 2005, je crois, je fais les nuits des débutantes avec It's Oh So Quiet, qu'on a entendu dans le medley. Alors le premier soir, je n'en ai aucun souvenir.
Blackout,
surtout à cause de la demi-bouteille de vodka que j'ai avalée avant de descendre sur le comptoir et présenter mon show, tellement j'étais stressé, pétrifié et angoissé à me demander pourquoi je m'étais mis dans un tel pétrin. Mais heureusement, c'est toujours sur deux soirs, le week-end des débutantes, ça porte bien son nom. Et donc le deuxième soir, je me suis dit, mais en fait, tu n'as plus aucun souvenir d'hier, c'est bête. Essaye de conscientiser un petit peu et de pouvoir profiter. Et là, le deuxième soir, j'ai réellement profité de l'expérience. Ce qui fait que j'ai tellement pris mon pied que j'ai, la semaine d'après, demandé à maman si je pouvais remonter sur le comptoir et représenter d'autres shows. Et elle m'a dit cette phrase mythique maintenant. Toi, avec ta gueule, tu ne peux faire que des soirées Halloween. Ce qui en soi, à l'époque, comme je l'ai dit, n'était pas faux, vu que j'étais ce petit punk un peu chelou. Et du coup, j'ai pris ça comme un défi et j'ai effectivement du coup proposé des monter des numéros pour la soirée d'Halloween qui était deux, trois mois après, en disant, ben voilà, vous avez dit que je ferai Halloween avec ma gueule, donc j'ai X chansons d'Halloween que j'ai préparées et est-ce que je peux faire la soirée d'Halloween. Et de là est venu... J'ai un petit peu intégré comme ça au fur et à mesure et relevé les défis que maman me jetait en fait. Toutes les soirées spéciales ou ce genre de choses me disaient, ah bah voilà, maintenant c'est la Saint-Valentin arrive, alors prépare 2-3 numéros. Et donc voilà, et puis au final je suis devenu artiste résident dans la troupe de chez maman.
Et justement, tu définis souvent Mademoiselle Boop comme ayant un côté punk.
Ouais.
Ta première performance, c'était sur du Björk, dans un milieu où, en tout cas, pour ce que j'en ai compris, on a plus l'habitude de Dalida ou de Céline Dion. Est-ce que ça a été une bataille à ce moment-là pour faire accepter un personnage un peu plus punk, un peu moins, peut-être un peu moins léché ?
Oui. La réponse est oui. Et en fait, la bataille, c'est pas vraiment moi qui l'ai menée, c'est plutôt maman. Notre chef de troupe, parce que je pense qu'elle avait saisi quelque chose en moi. Est-ce qu'elle voyait quelque chose justement de nouveau, d'intéressant? J'imagine que oui, et que du coup elle voulait proposer dans son établissement. Mais c'est vrai qu'elle a dû batailler aussi bien avec l'équipe, la direction, parce que maman n'était pas l'unique propriétaire et prise et preneuse de décision.
Mais c'était pas elle qui décidait qui performait et qui ne performait pas.
Elle était un peu chef de troupe, mais forcément il y avait le grand patron qui était au-dessus, il y avait le manager du bar, il y avait aussi le public, parce qu'il y a aussi le public qui... Enfin, il faut être à l'écoute de son public pour savoir un petit peu si les artistes qu'on propose fonctionnent et plaisent au public. Et je pense que les premières années, c'était un petit peu tout le monde contre moi, ou en tout cas contre les décisions de maman, parce que les gens ne comprenaient pas, justement, parce que c'était une époque où on proposait beaucoup de shows, comme tu disais, d'Alida, Céline Dion, Mylène Farmer, des ressemblances, etc. Donc c'était assez codifié, même s'il y avait quand même déjà des drags qui proposaient, comme Bruno et Marla, qui sont un petit peu mes modèles drag de l'époque, qui proposaient des choses un peu plus alternatives. En tout cas, Bruno qui faisait du Rita Mitsuko, etc. Donc voilà, moi je suis arrivé déjà sans aucun code, en fait, et je pense que c'est ça qui fait que je suis venu, en proposant moi mon univers et ce que j'aimais comme style musical et ce que j'avais envie de faire, sans me dire, en fait, on attend de moi que je fasse des imitations de tel ou tel ou tel ou tel artiste. Mmh. Et je pense que, comme je disais, c'est un peu une bataille, et ça a même été un peu compliqué aussi avec les artistes de la troupe qui ne comprenaient pas ce que je faisais là au début. Donc, il y a eu des années un peu difficiles au début.
D'accord.
J'ai dû prouver peut-être un peu plus que d'autres que j'avais ma place.
Et à l'époque, à Bruxelles, il n'y avait pas vraiment d'autres... scène drag ou si ?
Eh bien, si. Je trouve que quand moi j'ai commencé, la scène drag était assez développée à Bruxelles, contrairement à ce qui s'est passé par la suite et encore à l'heure actuelle. Parce que à l'époque, j'avais l'impression déjà qu'il y avait plus de bars que maintenant. Il y avait le Cancan, il y avait l'Homo Erectus, il y avait Chez Maman. Il y a eu un peu après, il y a eu la Boule Rouge.
Et donc beaucoup dans des bars gays.
C'était principalement dans des bars gays.
Qui organisaient des soirées drag.
Mais qui avaient des événements drag quasiment tous les week-ends. Ce qui n'existe presque plus maintenant, à part Chez Maman, qui fait uniquement, enfin, qui propose uniquement du drag tous les vendredis et les samedis. Il n'y a plus vraiment d'endroits comme ça. Alors qu'avant, effectivement, le Cancan, c'était aussi tous les jeudis, vendredis, samedis, voire peut-être dimanche. L'Homo Erectus aussi. J'en oublie sans doute aussi. Mais oui, entre les bars de la rue Marché au Charbon et de la rue des Pierres, il y avait beaucoup plus de petits bars qui proposaient des shows quasiment tous les week-ends. Il y avait aussi la soirée cabaret au Louise Gallery, tous les dimanches, qui proposaient des shows quasiment tous les dimanches aussi, avec entre autres l'équipe de Chez Maman. Donc moi, quand j'ai commencé, j'ai l'impression que je suis arrivé un peu à la fin d'une certaine période, un peu âge d'or du drag à Bruxelles. Et puis tout ça s'est un petit peu éteint. Les bars ont commencé à fermer, les soirées qui accueillaient des drags n'ont plus vraiment booké des drags par la suite. Et donc on est arrivé... dans les années 2010, à n'avoir plus que Chez Maman et la Boule Rouge, je pense, encore à l'époque.
À ton avis, comment ça se fait est-ce que le drag était passé de mode à ce moment-là et revient à la mode maintenant ? Est-ce qu'il y a eu vraiment des événements qui ont fait que
C'est une bonne question. Je crois que de toute façon, tout ça est très cyclique. De toute façon, je pense qu'il y a eu un gros boom du drag plutôt dans la fin des années 90, début 2000, avec déjà début 90, l'arrivée des Club Kids, etc. et le boom du drag au niveau des États-Unis, qui a eu des répercussions chez nous plutôt vers la fin des années 90, début 2000. Et donc, il y avait des espèces de créatures dans toutes les soirées, dans tous les clubs, des drag queens avec des plateformes improbables et des grandes crêtes, etc. Ça se voyait vraiment beaucoup dans fin des années 90, début 2000. Et puis, comme je disais, vers 2005, entre 2005 et 2008, tout ça a commencé un petit peu à disparaître. Il y a eu même un rejet de ces créatures par la communauté LGBTQIA+. En tout cas, moi, quand j'ai commencé, j'ai senti qu'on n'était plus vraiment bien les bienvenus dans les bars, dans les événements, etc. Il y a eu une fois même où, avec Edna, on nous a presque demandé de quitter un événement à cette occasion-là. On nous a dit vous ne donnez pas une bonne image de la communauté, on ne veut pas de vous ici.
Ah, waouh.
Mais on est resté, hein, vous savez, Boupé Edna, quand elles sont quelque part. Elles y restent. Donc ouais, il y a eu ce côté un petit peu. Est-ce que c'est parce que j'en sais rien. Je vais commencer à faire des théories complètement.
Ça n'engage que nous.
Ça n'engage effectivement que moi. Mais est-ce que c'est parce que justement la communauté commençait à avoir de plus en plus de droits et donc voulait montrer qu'elle pouvait rentrer dans les cases hétéronormées.
Certaines respectabilités, entre
guillemets. C'est ça, et que du coup, on peut prétendre, en tout cas à l'époque, on commençait à prétendre au mariage, à plus d'égalité, à tous ces combats pour l'adoption, etc. Alors peut-être que dans ces combats-là, le fait d'avoir des grandes créatures trop maquillées avec des hauts talons ne rentrait pas dans les combats. Je n'en sais rien. Je théorise et peut-être que je fais.
Non, c'est intéressant.
Mais peut-être que justement dans ce combat pour plus d'égalité vers.
Et d'intégration.
Et d'intégration, peut-être que du coup la drag queen ne collait pas.
Elle ouvrait peut-être un petit peu trop sa gueule.
C'est ça. Alors que je trouve. Je continue ma réflexion, qu'à l'heure actuelle, la drag queen revient sans doute, ou en tout cas la pratique du drag et la déconstruction du genre revient un petit peu sur le devant de la scène, justement parce que la déconstruction culturelle du genre revient comme point central de beaucoup de débats, avec entre autres toutes les causes et les luttes féministes, avec le MeToo, avec tout ça fait en sorte qu'on remet en question la masculinité, la féminité, et du coup les dragues sont les porteurs de drapeaux, les fers de lance, les Mariannes. Nous sommes les Mariannes de la déconstruction.
J'adore.
Donc voilà, je viens peut-être de totalement inventer une théorie sociologique, mais faites-en ce que vous voulez.
En tout cas, elle me plaît beaucoup.
Ah ben voilà.
c'est très intéressant, je trouve.
Qu'est-ce qu'on fait avec tout ça ?
Eh ben oui, c'est ça. Comment consolider cet effet de mode Eh bien, avec des structures comme le cabaret Mademoiselle qui existent. Et donc, pour en revenir à ce qu'on disait en début d'émission, est-ce que c'est peut-être aussi pour toi, alors là, c'est moi qui fais des grands ponts qui n'existent peut-être pas, mais est-ce que c'est aussi pour ça que pour toi, c'est si important de rester indépendant des pouvoirs publics et de l'argent public, quitte à être dans une plus grande précarité, mais en gardant une plus grande liberté de ton peut-être et de contenu et de personnes engagées, etc.
Oui, je pense qu'il y a de ça, effectivement. Comme j'expliquais, que le cabaret, au final, a ce côté un peu... on veut pas rentrer dans les cases. Enfin, le cabaret est né il y a plus d'un siècle, dans les années 20, années 30, justement, avec ce côté un petit peu révolutionnaire et marginal. Dans un sens, on a envie de rentrer dans le système... Mmh. Pour faire bouger les choses, et de plus en plus, la culture traditionnelle, on va dire, s'intéresse de plus en plus aussi à ce que nous, on peut proposer. Donc ça, c'est cool, mais dans un sens, je veux aussi pouvoir garder ce côté indépendant et ce côté très punk, au final. Mmh. J'aime bien le fait que, par exemple, ça, pendant le Covid, on l'a prouvé, c'est qu'il a fallu se réinventer et créer des spectacles totalement différents toutes les semaines. Et en fait, c'est ça qui est chouette, c'est qu'avec le cabaret, on se dit, demain, on va faire une comédie musicale sur un chien
Edna
et un chat et
où
Edna dans l'espace et en fait on a une semaine pour le faire et avec tel et tel et tel artiste, est-ce que vous êtes partant, go go go, oui on y va, et en une semaine avec des bouts de carton, des bouts de ficelle et trois
vieilles bonne volonté
c'est ça, on met quelque chose sur pied, ce qui n'est pas possible quand on commence à rentrer dans le système subsidié, dans tout ça, c'est que effectivement tout prend du temps. Les administrations doivent, pour sortir un cachet ou mettre une signature, ça peut prendre parfois 4, 5, 6 mois, voire parfois un an. Et en fait, je trouve que ça casse le côté créatif, la spontanéité et toute la magie du cabaret, en fait. Donc oui, si on veut rester à la fois à la pointe de ce qui se passe comme on disait tout à l'heure, sur l'émergence des nouveaux artistes, des nouveaux collectifs, etc. Et en même temps, pouvoir proposer des choses nouvelles et rester créative, bah, en fait, il faut pouvoir rester indépendant. Enfin,
mais
il faut être indépendant.
Non, mais je trouve ça hyper, hyper juste, cette souplesse que donne l'indépendance aussi et cette capacité de réaction. C'est vrai que les théâtres, comme ils prévoient tout 1, 2, 3 ans à l'avance, ça rigidifie beaucoup de choses. Mais avant, j'aimerais juste revenir sur un point de votre biographie. C'est justement l'ouverture du cabaret Mademoiselle. Parce que au moment où tu étais quand même bien installé dans la troupe de chez maman, oui, tu décides d'ouvrir un lieu à 2 minutes,
même
deux
pas.
Minutes en cumulet de chez maman.
2 minutes en marchant sur les mains.
Voilà. Comment est-ce que ça s'est passé ? Est-ce que ça a été vécu comme une trahison ? Est-ce qu'au contraire, c'était vécu comme un chouette, une émulsion dans le milieu ? Comment ça a été ?
Il y a eu plusieurs phases. Pour retracer un petit peu l'historique, déjà, je n'ai pas décidé de quitter chez maman du jour au lendemain pour ouvrir le cabaret. J'ai déjà pris une espèce de choix dans ma vie professionnelle qui était... Enfin, j'ai été manager d'une boutique de cosmétiques pendant plusieurs années et donc je m'éloignais un petit peu de la vie nocturne, on va dire, ou en tout cas de l'univers de chez maman depuis quelques temps.
Et ça, c'était déjà une manière de fourbir tes armes et de gagner des outils de gestion qui allaient te servir pour ouvrir ton cabaret ? Ou c'était une volonté de regagner de la structure et de la régularité
Plutôt la deuxième option. À l'époque, c'était pas du tout planifié. Justement, j'avais totalement dévié de mon plan d'ouvrir mon propre établissement, etc. J'étais plutôt dans une optique de « Ah ben, peut-être qu'en fait, il faudrait avoir un vrai métier, avec des gros guillemets,
ah, le fameux
vrai métier, avec une espèce de pression familiale aussi qui dit « Mais est-ce que tu n'aurais pas à un moment donné une activité de jour, un métier un peu plus stable, etc. » Donc à un moment donné, oui, on se dit bah, « Peut-être qu'effectivement, je devrais trouver un vrai métier avec des gros guillemets. » Mais effectivement, du coup, ouais, j'ai fait quelques années de vente et de management de boutique. Mais ça m'a rattrapé. Le vrai métier n'était pas pour moi la vérité, c'est ça. Et donc, j'ai pété un plomb à un moment donné dans ce secteur-là. Et je me suis retrouvé vraiment du jour au lendemain, sans rien, à me dire qu'est-ce que je vais faire. Après, à mon avis, un mois ou deux après l'arrêt total de mon activité en tant que manager de cette boutique, j'ai vu un espace commercial. Et c'est là où je me suis dit, bim, j'ai ressorti toutes mes envies, toutes mes idées d'avoir mon propre établissement et j'ai commencé à faire des dossiers. Cet espace, pour la petite histoire, est l'actuel The Agenda.
Ah, ce n'était pas encore...
Que je visitais et pour lequel je devais normalement signer pour le projet Cabaret Mademoiselle, mais les planètes n'étaient pas alignées pour cet espace-là à ce moment-là, ce qui fait que c'était en 2016, ça a reporté un petit peu, et puis quelques mois plus tard, je visitais l'actuel Cabaret Mademoiselle, qu'on a finalement ouvert en octobre 2017. Alors je reviens alors à ta question, c'est pourquoi... à côté de chez maman et comment ça s'est passé avec l'équipe de chez maman. Globalement, pourquoi à côté de chez maman ? Parce que c'est le quartier dans lequel je suis depuis presque toujours, quand j'ai débarqué à Bruxelles du haut de mes 16 ans. C'est le quartier que je connais et c'est le quartier touristique et à l'époque on l'appelait le quartier gay, c'est le quartier LGBTQIA+, là où il y a une vie pour la communauté. Ça me paraissait tomber sous le sens que je cherchais un espace dans ce quartier-là tout simplement parce que je connaissais le public, la vie et la dynamique du quartier. Et bah, d'ailleurs là les planètes se sont alignées quand j'ai voulu chercher, bah, j'ai à la fois trouvé au début... l'espace The Agenda et puis après le cabaret Mademoiselle. Et j'ai directement informé quand j'étais à deux doigts de signer pour ouvrir le cabaret Mademoiselle, j'ai directement informé l'équipe de chez maman pour que tout se fasse correctement de mon projet. Et l'idée surtout était de ne pas faire concurrence directement à la fois par la proposition artistique et aussi par le créneau parce que chez maman propose toujours d'ailleurs des shows à partir de minuit jusqu'à 5h du matin. Et il n'y avait pas vraiment d'activité de cabaret ou de spectacle entre 20h et minuit. Et quand on a ouvert le cabaret, la volonté était vraiment de prendre ce créneau en termes d'horaire et de proposer quelque chose de différent en termes de spectacle aussi, vu que j'y proposais du burlesque, de la pole dance, etc., etc., en plus du drag.
Oui, donc ça, c'était dès le départ du cabaret Mademoiselle. Il y avait cette envie d'être...
Tout à fait. Et c'est d'ailleurs une des choses qui m'a poussé un petit peu à ouvrir mon propre endroit, c'est que je trouvais que, justement, dans mon parcours, dans l'équipe de chez Maman, j'ai commencé à rencontrer d'autres disciplines, d'autres artistes, etc., en allant performer à gauche et à droite. Et en 2015-2016, j'ai découvert la scène burlesque et il y avait vraiment ce côté. Mais en fait, tous ces artistes n'ont pas de lieu non plus. Je sais que chez Maman, c'est pas du tout dans l'ADN, c'est pas ce bar-là qui va pouvoir accueillir ces artistes-là à Bruxelles. Donc, ouvrons un bar, tout simplement. Donc voilà, Maman, à l'annonce du projet, était plutôt assez enthousiaste. Le patron au-dessus de Maman, ou en tout cas qui tient les rênes de chez Maman encore à l'heure actuelle, était plutôt pas très content. Et il ne l'est toujours pas d'ailleurs. Mais non, je crois que Maman est plutôt fière d'ailleurs de voir, au final c'est un peu son héritage aussi, et c'est une extension de son travail. Et ça prouve aussi que, presque 20 ans plus tôt, elle a bien fait de miser sur moi dans un sens, et qu'effectivement, il y avait peut-être du potentiel dans la petite punkette que personne ne voulait.
Waouh. Waouh. Et donc du coup, quelques années plus tard, c'est l'ouverture de The Agenda.
Oui.
Ça, c'est la volonté de proposer un espace... Du coup, plus bar, soirée, DJing, à côté d'un endroit qui devient de plus en plus vraiment un endroit de spectacle.
C'est ça. Tu as très voilà. Bien résumé. Globalement, The Agenda vient de plusieurs volontés. Déjà, j'étais très frustré de ne pas avoir eu cet espace que j'avais visité en 2016, qui m'était passé sous le nez à l'époque pour ouvrir mon premier endroit. Et donc, quand je passais devant et que je voyais qu'ils en avaient fait un projet pas très qualitatif, on va dire, à chaque fois, je disais « Merde, j'aurais fait quelque chose de très bien dans cet endroit ». Donc, en 2021, quand j'ai vu que la surface était à remettre, déjà, je me suis dit « Je vais prendre une revanche sur la vie ». Donc j'ai été visiter cet endroit et effectivement la volonté était de pouvoir faire une proposition à la fois complémentaire au cabaret qui, avec la période Covid, devenait de plus en plus un lieu de spectacle et plus un lieu de fête. C'était de recréer un lieu de fête. Et en plus, effectivement, quand on prend un peu de recul à l'époque sur les bars de la rue Marché au Charbon, c'était principalement des bars pour une population cis, gay, homme. Globalement, sans vouloir dénigrer ce genre d'endroit, que du contraire. Mais je trouvais qu'il manquait des espaces pour toutes les autres lettres de l'alphabet et toutes les autres couleurs de la communauté. Et donc c'est un petit peu ça qui m'a animé, qui nous a animé autour du projet The Agenda. Et le troisième levier de motivation, c'est qu'on m'a toujours appris de ne pas mettre tous mes œufs dans le même panier, et qu'au sortir du Covid, où on était encore en plein milieu, je me suis dit, mais comment faire pour, si un jour le cabaret a des difficultés, faire en sorte d'avoir une autre rentrée, une autre source de revenus. Et en fait, c'est un petit peu The Agenda qui, à un moment donné, a sauvé le cabaret, malgré le fait que c'était un pari risqué aussi, parce qu'on était encore en plein deuxième ou troisième ou quatrième confinement. Et que oui, la bonne idée de Mademoiselle Boop est d'ouvrir un lieu de fête alors que la fête est interdite. Mais c'est un peu ça qui nous a permis, en fait, de, à un moment donné, financièrement, faire en sorte que le cabaret sorte la tête hors de l'eau. Donc,
bien joué, Mademoiselle Boop.
Voilà, c'était effectivement risqué parce que ça aurait pu d'autant plus faire couler la boîte et tout tirer vers le bas, et qu'on mette la clé sous la porte aussi bien de The Agenda que le cabaret Mademoiselle après 3 mois. Mais ça ne s'est pas passé comme ça. Donc là aussi, les planètes étaient alignées. Merci les planètes.
Merci les planètes. Pour terminer, même si on en a déjà pas mal parlé, j'ai trouvé au détour d'une interview
qu'est-ce que j'ai encore dit.
Au moment de l'ouverture du cabaret Mademoiselle, tu disais que le drag belge avait du retard.
Ah oui. J'ai dit ça, moi ?
Mais oui, tu as dit que le drag belge avait entre 5 et 10 ans de retard. Je crois que c'était une interview à Paris Match au moment de l'ouverture du cabaret Mademoiselle.
Vrai.
Quel regard tu poses ? En plus, tu performes régulièrement à l'étranger. Et tu as des contacts et des dragues maintenant de l'étranger viennent performer au cabaret Mademoiselle. Quel regard tu poses sur le drag belge aujourd'hui ?
Eh bien, on n'a pas de retard.
On a rattrapé le retard.
On a rattrapé le retard, mais je dirais même pas qu'on a rattrapé le retard. Il y a une forme d'identité assez particulière du drag en Belgique qu'on ne retrouve pas ailleurs, et j'en suis bien content. Le drag se développe sans être spécialement américanisé, c'est ça que j'aime bien aussi. Mmh. Donc je dirais pas qu'on a rattrapé le retard par rapport aux États-Unis, mais en tout cas, on a vu émerger pas mal de chouettes choses en termes de pratique du drag. Et je pense que le Covid n'est pas innocent non plus là-dedans. Je pense que toute la période où on s'est senti muet ou en tout cas interdit de scène, ça a fait popper beaucoup de choses au niveau des scènes alternatives, au niveau du drag, au niveau de tout ça. Et du coup, là, on commence à récolter beaucoup de choses qu'on a plantées à ce moment-là et qu'on a vu germer, en tout cas, à ce moment-là, et qui sont plutôt excitantes. J'ai un tout petit peu peur que, justement, la réalité économique rattrape tout ça parce qu'on était dans cette énergie de... On y va, on a des choses à dire, on veut crier tous nos messages et on le fait pour rien. On le fait dans des lieux qui mettent la salle à disposition justement ou dans des squats ou dans tout ça. Et puis ça n'a qu'un temps. Il faut pouvoir manger, il faut pouvoir rémunérer les artistes, il faut pouvoir payer les salles, il faut pouvoir payer les techniciens, les techniciennes, les régisseurs, les vestiaristes, etc., etc. Donc j'ai un peu peur que beaucoup de choses s'éteignent petit à petit, mais on n'en est pas encore là. Je n'espère pas, mais je crains. C'est pour ça que je veux toujours pouvoir, comme on disait tout à l'heure, laisser l'opportunité au collectif de profiter du cabaret pour pas grand-chose, ou en tout cas trouver des modèles économiques où le public peut se retrouver, où les artistes peuvent se retrouver, et nous, en tant qu'établissement, on peut se retrouver aussi. Donc, je trouve que c'est très, très important.
Eh bien, ça me paraît être une belle conclusion, cet appel à la structuration et à pas juste rester dans cette énergie folle qu'elle drague actuellement. Mais...
Oui, mais garder le grain de folie.
Ah bah oui, avec grand plaisir.
Il faut pas oublier que Mademoiselle Boop était une petite punkette. Gardez votre côté punk.
Ah, c'est un très beau mot de la fin. Eh bien, avant de se quitter, il me reste à te poser les petites questions rituelles que je pose à toutes les personnes qui passent par ici. Bon, on a déjà un petit peu parlé, mais à ton avis, est-ce que le drag va changer le monde ?
Le drag change le monde, en tout cas. Le drag déconstruit, le drag montre qu'on peut raconter des histoires avec toujours beaucoup de bienveillance, d'amour, d'humour et de paillettes. Et que, en fait, on peut parler de beaucoup de choses sérieuses sans se prendre au sérieux. Et que ça, beaucoup de gens l'oublient et beaucoup de gens devraient l'appliquer au quotidien.
Si tu pouvais t'inventer un nouveau drag de zéro, ce serait qui ? Ce serait quoi ?
Ah ! Est-ce que j'en aurais envie ? Ça, c'est une très bonne question. Je n'en sais rien du tout. Je pense que ça pourrait sans doute être plutôt du King.
Ah !
Parce qu'en fait, au quotidien, je suis ni spécialement méga masculin, ni spécialement méga féminin, et j'ai cette espèce de non-binarité. Mais du coup, ça peut être très intéressant de creuser l'hyper-masculinité ou les codes de la masculinité, en tout cas.
Ah, intéressant. Est-ce que tu as un prochain numéro dans les tuyaux ou pas ?
Alors, j'ai toujours une playlist sur Spotify qui déborde de projets et de chansons. Là, pour le moment, je suis en train de travailler quelque chose d'assez complexe. Qui s'appelle, c'est un numéro de la comédie musicale Tutsi, What's Gonna Happen, qui est l'histoire d'une jeune personne qui va passer un casting, mais qui angoisse énormément à l'idée de passer le casting et qui se fait le film le plus horrible de tout ce qui peut se passer quand on passe un casting.
Ah, intéressant.
Histoire personnelle, on ne sait pas.
Pas du tout.
Et puis j'ai des chansons un peu plus légères, un peu plus passe-partout pour d'autres occasions qui sont sur le feu. Voilà.
Plutôt freak ou plutôt merveille ?
Ha. On peut pas dire les deux.
Tout est possible.
Tout est possible. Alors, je crois que j'aime bien plutôt l'image du monstre à paillettes. Donc, le freak merveilleux.
Formidable. Écoute, j'adore. Eh bien, merci beaucoup, Madame Boop.
Mademoiselle.
Mademoiselle. Oh, enfin, oh là là, mais
enfin,
oh.
Je resterai mademoiselle jusqu'au bout de ma vie.
Ah, eh bien, tant mieux. Eh bien, merci, Mademoiselle Boop.
Merci pour l'accueil et l'écoute.
C'était très, très, très intéressant. J'espère que les auditeuristes trouveront ça aussi intéressant que moi. Et puis, à bientôt.
À très bientôt.
Au revoir.
Vous venez d'écouter Freaks et Merveilles et je vous en remercie. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à faire pleuvoir cœur, étoiles et commentaires sur les différentes plateformes où le podcast est recensé pour qu'il gagne en visibilité. Sachez aussi que Freaks et Merveilles vient d'atterrir sur Patreon, l'occasion de mettre quelques euros par mois dans le chapeau virtuel de l'émission pour me soutenir et m'aider à rembourser les coûts de production de ce podcast. Merci à vous, mais surtout, n'oubliez pas le plus important, allez voir et soutenir les Freaks et les Merveilles sur scène. Freaks et Merveilles est un podcast imaginé, créé, enregistré et monté par Croc. Les visuels sont de Maël Christin et l'habillage sonore par King Baxter. Le podcast bénéficie du soutien de la ville de Bruxelles et est propulsé par Murmure ASBL. Merci à eux.